Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 16h. Tout de suite, pas la peine de crier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invitée de cet après-midi s'appelle
Christine and the Queens.
Avec elle, nous concluons une semaine entièrement musicale. Elle reste ici au Palais de Tokyo jusqu'à 17h, ça commence. Semaine, nous avons dit que la musique était une façon de passer du temps sur les plates-bandes, de laisser des océans faire des marécages avec ce que l'on croyait être une terre stable. Cette semaine, nous avons dit qu'il fallait creuser les noms dans une évidence du rythme jusqu'au silence du poème. Nous avons écouté jouer des hommes et des femmes dans des studios de la Maison de la Radio et toujours nous avons mesuré notre chance de partager ça avec vous. Rodrigo Amarante, Cavala, Pierce Faccini et Jasser Hadjioussef dessinèrent des spirales avec l'horizon. Mina Tindall et Olivier Marguerite convoquèrent des chansons peintes sur pellicule et nous vîmes hier voler des oiseaux de tempête. Nous vous recommandons chaleureusement de réécouter ces 4 émissions. On s'occupe tout de suite de la 5e. Vous écoutez France Culture en direct du Palais de Tokyo et c'est pas la peine de crier. Vers 16h13, sur le Polaroid, on fait apparaître les enfers avant Saint-Claude. Vers 16h20, dernière étape donc de cette semaine musicale, Christine and the Queens est notre invitée. Elle donnait un concert parisien mercredi pour célébrer la sortie de son dernier album Chaleur humaine. Elle jouera quelques titres pour vous et nous prendrons le temps de parler de ce disque. Toutes les personnes qui sont venues nous voir, vous voir, sont ici aussi nos invités. À vous derrière le poste comme à eux, je propose que l'on écoute la voix d'Aïssa Maïga. La comédienne termine aujourd'hui le déballage de sa bibliothèque. Elle choisit un extrait du texte « La terre qu'on a » de Jean Ziegler. Il y est question de son père Mohamed Maïga. On l'écoute.
Le cinquième acteur de la révolution burkinabé du 4 août 1983 était un journaliste, Mohamed Maïga. Affirmation exagérée ? Non. Dans tout processus révolutionnaire, insurrectionnel, il existe un étrange et fascinant rapport dialectique entre les hommes d'action et les commentateurs, entre les acteurs premiers du drame et leurs critiques. Décembre 1983, j'arrive à Ouagadougou peu avant Noël. Sur les marches de l'escalier de l'hôtel Slimande, dans la lumière ocre de l'après-midi, un jeune homme m'interpelle. C'est Mohamed Maïga. Il part à l'instant pour le Ghana. Il reviendra dans quelques jours. Maïga éclate de joie de vivre, de santé, d'énergie. Il rit, ils vont me faire crever, qu'est-ce que je travaille ? Je sentis que ce travail-là, le travail de comprendre le monde, de contribuer par la connaissance à son changement, le passionnait au-delà de toute parole. Quelques jours plus tard, je suis au nord du pays, dans la province de Dori. Dans le ciel, le bruit d'un hélicoptère. L'hélicoptère se pose, je découvre un autre Mohamed Maïga. Le Maïga malien de 35 ans, attaché à cette terre sahélienne par toutes les fibres de son être. Son père, fonctionnaire à Gao, s'était au début des années 60 heurté aux autorités. Homme fier, il rejoint avec toute sa famille le clan de sa femme. Ce clan a du bétail. Le petit Mohamed, avec son frère Alpha, ses sœurs, ses parents, nomadise dès lors pendant plusieurs années dans ces vastes steppes de la boucle du Niger. Et c'est là que je compris la force de l'intelligence, le don d'intuition, la facilité d'analyse de Maïga, il pensait constamment avec son âme. Il aimait, connaissait, puisqu'il était né en leur sein, ces communautés migratoires du Sahel, leur formidable ténacité, leur espérance brûlante, leur sagesse profonde. Autre lieu, autre nuit, dans le bureau du président Thomas Sankara. Nous discutons, Sankara, Maïga et moi, depuis 8h du soir. Discussion que je n'oublierai jamais. Sankara est jeune, il a l'âge de Maïga. Il interroge, expose avec une conviction, une sincérité et surtout une lucide simplicité qui sont peu communes aux hommes d'État. L'heure avance, il est 2h du matin. Maïga analyse, explique, insiste. Entre le président et lui, entre le jeune capitaine et le journaliste, je sens une complicité dramatique. Le journaliste veut que le président réussisse, survive, gagne son téméraire pari de créer ici, au cœur de l'Afrique, une société démocratique, plus juste, libre. Maïga est africain, de cette génération qui a trop espéré, qui a été flouée 10 fois, qui enrage et qui est humiliée par les vieux bourgeois compradors qui gouvernent tant de pays de la région. Sankara et ses amis doivent réussir. Maïga, avec une intransigeante détermination, exige en termes à peine voilés cette victoire. Sankara, de son côté, sollicite constamment l'avis de Maïga. Il le tutoie avec affection. Il est comme son frère. Le premier jour de l'an, sur la terrasse de l'hôtel, à 8h du matin, je suis assis avec Maïga. Nous discutons du message de solidarité que le président doit envoyer tout à l'heure à La Havane à l'occasion du 25e anniversaire de l'entrée de Fidel Castro dans la capitale libérée. Je suis pour une version dure, qui attaque sans nuance l'administration Reagan. Maïga est plus subtil, il voit les inutiles difficultés que des mots trop tranchés créeraient au jeune régime voltaïque. Il argumente, discute avec passion. À midi, il doit manger chez ses cousins en ville. À 2h, le président m'appelle. Maïga est mort, tombé face contre terre dans le corridor de l'appartement. Le docteur Pi Masumbuko, son ami sûr, directeur de l'OMS pour l'Afrique occidentale, est appelé. Pi Masumbuko fait du bouche à bouche pendant plus de 20 minutes, mais il n'y a plus rien à faire. Le jour tombe. De partout, les hommes, les femmes convergent silencieusement vers le camp militaire, à la sortie de la ville, sur la route de Bobo-Dioulasso. Devant un petit bâtiment en ciment, la morgue, les soldats ont disposé des bancs. Il fait frais. Un feu brûle devant la morgue. Le ciel scintille de milliards d'étoiles. La foule immense, s'étendant dans la nuit comme une mer immobile, reste silencieuse. Alpha, le jeune frère de Mohamed, est là. La famille est là, les amis, les camarades, et derrière eux, tout un peuple. Une chose est d'ores et déjà acquise devant l'histoire. Avec tendresse et détermination, Mohamed Maïga aura fait son métier d'homme.
Aïssa Maïga, vous terminez par l'extrait d'un texte qui s'appelle « La terre qu'on a » de Jean Ziegler et le bref mais intense portrait de Mohamed Maïga qui joue, on l'entend, un rôle en ce début des années 1980. C'est une histoire que vous connaissez puisque c'est quelqu'un qui vous est lié. Pourquoi lire ce texte ?
Bon, il s'agit de mon père. C'est un texte que j'ai découvert il y a très peu de temps. J'ai commencé à faire des recherches sur mon père, sur son parcours, qui a été assez bref, puisqu'il est mort à l'âge de 33 ans, en 1984. Parce que je sens que je suis à un moment où je vais commencer à m'emparer de cette histoire, pour d'abord pour moi, et puis pour la raconter, parce que il me semble qu'elle recèle... divers aspects de l'histoire contemporaine africaine, avec tous ces contrastes, ces espoirs immenses, ces déceptions abyssales, à travers un homme qui était habité par l'idée de justice sociale jusqu'à son dernier souffle.
Et d'ailleurs, on entend cette phrase de Ziegler qui dit « Il était plein de cette joie, de cette vie, de cette lumière, d'exercer un métier qui... participait, contribuait par la connaissance à changer le monde. » Pour parler du métier du journaliste, c'est une phrase qui est formidable de la part de Ziegler. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été transmis d'une façon ou d'une autre ?
Oui, c'est vraiment l'image que j'ai de mon père. C'est quelqu'un de solaire. Et c'est l'image que la plupart des gens qui l'ont rencontré, qui l'ont côtoyé, gardent. C'était un être assez flamboyant, qui était très tendre, et qui savait démontrer cette tendresse aussi bien à ses enfants... qu'à ses proches, et qui avait vraiment l'amour des mots, l'amour du verbe, l'amour de l'argumentation, et puis l'amour de la lutte politique. J'ai le souvenir, dans le salon, chez moi, quand j'étais enfant, de réunions comme ça avec des hommes, des femmes. Je comprenais absolument rien à ce qui se racontait, mais je voyais que les gens étaient passionnés et apporter. Je sentais qu'il y avait vraiment de l'argumentation, de la contre-argumentation, des antagonismes et puis des moments comme ça de réunion autour d'idées. Enfin, voilà, c'est vraiment une sorte de souvenir d'enfant que je garde. Je voyais vraiment le monde des adultes s'organiser autour du verbe. Et j'ai aussi l'image de mon père qui écrivait en écoutant au dictaphone ce qu'il avait enregistré au cours de ses entretiens. Oui, ce sont des choses, je pense, qui marquent vraiment. J'ai un respect infini pour le métier de journaliste. Voilà.
Quelle musique vous voulez associer à ce texte ?
Bah, Oumou Sangaré, ça tombe bien. J'avais pas décidé, mais cette diva malienne, ouais, je pense que c'est le meilleur morceau que je pourrais trouver dans ma petite liste pour accompagner ce texte sur mon père.
La semaine prochaine, c'est le comédien Stanislas Nordet qui déballe sa bibliothèque pour nous et ce sera intense en tout point, réservez donc vos heures du goûter. En attendant, nous sommes réunis au palais de Tokyo à Paris et peut-être vous, derrière votre poste, cela crée une réalité qui crée de la chaleur. Si tout le monde se concentre, on fait apparaître une image, c'est le Polaroid. Deux enfers plus bas, une poignée de lions n'ont renoncé à rien, attendent en se léchant les babines, une abrivade de taureaux menés par des zèbres blancs. Ils ont des poignets fins, des fils d'or, et c'est beau comme ils descendent. Ils disent « ce sont nos enfers », et nous sourions doucement car évidemment ils mentent comme ils respirent, il s'agit des nôtres, à nous tous je veux dire. Je leur tatoue à chacun les poignets au stylo délébile pour le refaire toujours et laisser se dissoudre l'encre dans l'air qu'elle dessine des étrangers. Les lions rugissent que rien ne rangera l'orage du côté des morts. Et ils ont raison. Deux enfers plus bas et la pluie fraîche sur nos babines tout à l'heure le confirmera. La plus belle porte des colliers de doute. Et c'est comme des vagues directement en rouleau à l'endroit où la clavicule est douce. La plus belle change. Les lions sont restés là-haut, personne ne descend quand il fait plus noir, et vous ne trouverez dans les sous-sols des enfers que les audacieux. Ils ont des solitudes immenses dont ils font des repas. De grands gueuletons de solitudes immenses où chacun se chuchote au creux de l'oreille chaude. Si tu dis un mot, je m'approche et tu deviens ma station. Dans les enfers où il fait frais et où nous sommes tous désormais, la plus belle, les taureaux et les lions à l'étage, il résonne une note tenue et la respiration qu'elle contient. Une note dont la couture est apparente et c'est tant mieux, cela la rend chantable.
Bonjour tout le monde. On va commencer avec Saint-Claude.
Voilà qui laisse deviner que tout se décide, si, si, tout se décide, si, si. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont livides, vides, vides, mains sont livides, vides, vides. Le sol de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié à mes solitudes immenses. Ton visage ne sera jamais sentier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Laisse-moi rester seul. Laisse-moi rester seul. Ooh, 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 ooh. When I'm sad, just wanna stay with you. Laisse-moi rester seul. Comme certitude, collier à trois fils, 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 et à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. Ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. toi se garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin, alors que d'autres renoncent. Je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Laisse-moi rester seul.
Par Christine de Queen en direct du Palais de Tokyo à Paris. C'est un titre extrait de son premier disque paru chez Because au début du mois de juin, Chaleur humaine. Juste le temps pour elle de venir à table, elle est déjà là. On en discute dans deux secondes.
C'est triste d'avoir des utilisations de la clave.
Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission et le dernier moment d'une semaine au cœur de laquelle s'est tenue la musique, portée ou transmise ou traversée par des êtres qui voient dans elle une façon d'être au monde, sans discontinuité. On croit que un, c'est pas assez, un nom, un corps, un sexe, une vie, c'est pas assez. En fait, c'est immense et infini, mais la façon dont on est généralement invité à les explorer, c'est cela qui est étroit, qui n'est pas assez. Alors, dans tous les coins de murs qui contraignent et cognent, il est un enjeu exaltant à faire pousser des fleurs inconnues. Un jour, tu les réunis en bouquet et tu les offres en musique. Tu fais un disque avec tout ça. Et à tous ceux qui suffoquaient, tu leur dessines sur la peau des grains de beauté aérés. En pointant du doigt les non-beautés des nudités, on s'initie ému à la chaleur humaine. Votre disque est paru chez Because. Chaleur humaine, c'est son nom. Christine de Queen nous risquons cet après-midi à dire un peu ce qu'il y a dedans. Bonjour et merci d'être là.
Merci pour ces jolis mots sur l'album, ça fait plaisir.
Et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints et qui sont de bonjour. Plus en plus nombreux. Merci beaucoup à vous d'être là. On écoute quelqu'un.
J'ai toujours aimé le lit. J'ai toujours aimé donc traîner tard la nuit, écouter des disques, hein, à penser, à faire tout ce qui me passait par la tête, à sortir, à traîner, à rentrer, à pas me lever le matin, quoi, à faire des trucs, voilà. Donc, ça n'a pas vraiment changé, ça a un peu empiré, quoi.
Celui qu'on entend et qu'on fait entendre et qu'on fait résonner dans le Palais de Tokyo à Paris, c'est Christophe qui dit qu'il aime le lit, qu'il aime la nuit et que tout ça n'a pas changé, que ça a un peu empiré. J'ai brièvement introduit ce disque Chaleur humaine. Est-ce que c'est un disque d'un moment du jour ? Est-ce que c'est un disque d'un moment de la journée ?
Je suis quelqu'un d'assez nocturne moi-même. Je pense pas être au niveau de Christophe là-dessus, parce que lui, il se couche vraiment très tard. Mais Chaleur humaine, en tout cas, a quelque chose d'assez nocturne et d'assez mélancolique, et plus mélancolique encore que ce que je pensais. C'est-à-dire que je l'ai réécouté après être sortie de studio et je me suis rendu compte que c'était vraiment un disque nocturne et mélancolique. Et en même temps, moi, c'est un disque qui me fait penser à mon adolescence. Je parle comme si j'avais 40 ans, mais il y a quelque chose d'assez adolescent dans ce disque. Il est à fleur de peau, c'est le cas de le dire, et il y a quelque chose d'assez exalté aussi. Enfin, il y a une mélancolie exaltée du disque, ce qui peut convenir à la nuit. Je dirais que c'est plutôt un disque nocturne, moi.
Est-ce que c'est un disque qui a un lieu ? Est-ce qu'il a une géographie après avoir une lumière ?
Je l'ai pensé sans frontières et sans vraiment avoir de genre. Donc je ne suis pas sûre qu'il ait un lieu. Je pense qu'il s'adapte assez bien d'ailleurs au lieu de transport. Je pense qu'il s'adapte au transport en commun, aux avions, aux voitures, aux vélos et aux marches la nuit. C'est un disque en mouvement, j'espère.
Je confirme que ça date très très bien au transport et d'ailleurs ça rejoint absolument la chanson que vous venez d'interpréter pour nous qui est Saint-Claude, ouais. Et qui est une chanson qui introduit peut-être une première figure dans ce disque Chaleur humaine. Ça introduit cet homme, on ne sait pas d'ailleurs forcément, un corps qui est dans quelque chose qui est en mouvement, qui est en transport et que vous observez, que vous rencontrez par des petits détails, le poignet tatoué, le visage, le paysage qui passe par la fenêtre. C'est un album qui est très peuplé. Il est peuplé par vous, mais il est aussi peuplé par tous les gens que vous invitez. Je pense à des titres où, par exemple, quand vous reprenez la chanson de Christophe, qu'on vient d'entendre, Paradis perdu, il y a des morceaux de refrain qui sont là, issus d'une chanson de Kanye West. C'est un fonctionnement comme ça, d'une musique qui appelle les autres. Une musique appelle d'autres musiques.
Oui, enfin, en tout cas, je pense que c'est on compose avec une manière de penser la musique. Moi, je vois la musique comme quelque chose d'hybride et de pluriel. Et j'aime qu'elle soit traversée de voix parfois contradictoires. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien écrire un couplet en français et un refrain en anglais. C'est pour aussi faire dialoguer presque deux personnes dans une chanson. Donc, j'ai toujours aimé inviter des références ou des gens dans ma musique sans que ce soit étouffant aussi et sans que ce soit trop référencé. Mais j'aime faire dialoguer des choses qui m'ont nourri moi-même, ouais.
Est-ce que vous les invitez consciemment ou est-ce qu'à la réécoute, vous vous dites « Ah là là, là j'ai été complètement rattrapée par Michael Jackson, j'ai été complètement rattrapée par Kanye West ou j'ai été complètement rattrapée par Christophe ». Christophe, c'est un peu plus clair.
La plupart du temps, c'est quand même des choses qui me viennent assez inconsciemment. Bon, c'est un peu romantique de dire ça, mais c'est vrai que ce mélange des langues, ce mélange des références-là, je les intellectualise pas trop. Après, quand je reprends Christophe, c'est très conscient. Et quand je le fais dialoguer avec Kanye West, c'est venu d'une improvisation que j'ai faite. Mais ensuite, j'étais très contente de les faire dialoguer tous les deux. Mais je pense que c'est parce que moi-même j'ai des références très composites comme ça, j'écoute de la musique très commerciale et en même temps je peux écouter du Philip Glass et ça, il y a quelque chose d'ininterrompu entre ce dialogue-là, donc je pense que c'est des choses qui me viennent assez spontanément. Maintenant, après, j'ai décidé d'assumer vraiment ces contradictions-là de plus en plus aussi. Parce qu'avant, j'essayais de lisser un peu le propos quand je me rendais compte que c'était assez hybride dans ma composition et maintenant, plus ça va, plus j'aime aussi vraiment fragmenter les chansons et assumer ce côté très contradictoire parfois.
Vous dites que vous entendez la musique et que vous composez, que vous pensez la musique comme un endroit pluriel. Il se trouve que vous choisissez un nom de scène, un nom de projet qui est extrêmement pluriel. Christine M. de Queens, ça ouvre tous les possibles. Qu'est-ce que ça vous permet au moment de la composition et ensuite sur scène ? Ce mot-là, peut-être, c'est juste ?
Ouais.
Ce mot-là.
Bah, ce nom-là, en plus, alors je suis de moins en moins seule finalement avec ce projet, mais au début j'étais vraiment vraiment seule en scène et seule vraiment à défendre ce projet sur, j'allais dire sur les planches comme au théâtre. Mais bref, il y avait un côté schizophrène assumé aussi du faux nom de groupe. Il y a un côté aussi, effectivement, j'aimais bien ce nom-là parce qu'il y a comme une invitation aussi dans ce nom à rejoindre le projet. Et Christine, même le nom Christine, c'était pas un nom qui était censé m'appartenir. C'était un nom que j'utilisais tout le temps pour désigner des gens dont je ne me souvenais plus du prénom. Donc il y a quelque chose d'assez ouvert aussi dans ce prénom-là. Et j'aime assez l'idée que Christine puisse être à peu près n'importe qui, que ce soit une énergie particulière. Et maintenant que je suis moins seule sur scène, Christine and the Queens, les Queens, ce sont ceux qui sont avec moi sur scène en l'occurrence. Mais je pense que j'ai toujours voulu assumer un côté très pluriel et fragmenté de l'identité aussi, et de mon identité. D'ailleurs, le disque revendique une identité en mouvement, une identité qui ne peut pas s'enfermer entre quatre murs, justement. Ouais.
Quand vous dites que dans une chanson que tout ce que vous avez à dire reste en pays étranger, c'est une phrase qui est extrêmement belle pour dire à la fois que vous le dites, mais que ça reste en pays étranger, ou aussi on peut entendre que c'est pas complètement dit ou que c'est pas complètement facile à dire. Est-ce que vous avez réussi dans la musique à trouver un lieu depuis lequel le dire ? Parce que voilà, j'ai pas été un peu plus loin dans les présentations, mais vous avez étudié les lettres, vous avez étudié aussi le théâtre, vous avez étudié presque des portes qui pouvaient vous permettre de vous exprimer autrement. Là, vous choisissez un lieu pour le faire, qu'est la musique. En quoi est-ce qu'il a été élu, ce lieu ?
Bah, c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai pensé aussi très sérieusement à un moment à faire une carrière d'écrivain aussi. J'aimais beaucoup écrire. Mais plus ça allait, quand je faisais du théâtre, plus j'étais méfiante par rapport au langage. À la fois, j'ai un rapport compliqué de plus en plus avec le langage, parce que c'est très beau, ça permet, c'est très beau de dire des choses et d'être dans la poésie. Et en même temps, le langage fait partie de ces choses qui peuvent enfermer aussi la réalité, qui peuvent un peu la cloisonner. Du coup, même quand je faisais du théâtre, à la fin, j'étais presque plus intéressée par des chorégraphes comme Pina Bausch, qui n'utilisaient pas forcément de mots, ou très peu, et qui racontaient des choses très théâtrales avec le corps, qui est plus irréductible, à mon avis, que le langage. Donc j'étais déjà dans cette démarche de désolidarisation par rapport à quelque chose de trop bavard. Et je pense que la musique permet de retrouver ce rapport un peu intuitif au langage aussi, parce que la musique est là et la musique porte les mots. Et moi, je compose toujours les textes en dernier, donc la musique préexiste toujours. Et du coup, ça me permet de raconter ce que je veux, mais de pas être dans un réalisme trop marqué, ou encore une fois, de laisser de l'espace, de l'air aussi, pour que les gens puissent habiter mes chansons comme une maison, j'aime bien le dire, c'est vrai. Du coup, mes textes sont parfois un peu mystérieux, et chacun peut s'en faire aussi sa petite histoire, mais j'aime bien l'idée qu'avec la musique, j'ai trouvé un moyen peut-être de ne pas fermer trop de portes aussi, et de rester un petit peu étranger tout en racontant ce que je veux raconter. C'est aussi une manière d'être un peu pudique par rapport à ça.
Est-ce qu'il y a un moment donné où vous l'avez senti précisément ? Est-ce que vous avez eu plutôt la sensation que toutes les autres portes se fermaient et que du coup, c'était celle-ci qui restait ouverte ? Ou est-ce que vous avez vraiment dit « Ah ben non, en fait, c'est vraiment là que j'arrive à dire, à l'endroit où j'arrive à le dire ?»
C'est venu, encore une fois, assez instinctivement. C'était dans une période pas très évidente. Enfin bon, on va pas développer, mais j'étais dans un mal-être assez évident. Il fallait quand même que je trouve un moyen d'exprimer les choses que j'avais à dire. Et le chant est venu très spontanément. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez thérapeutique, d'abord pour soi, de se mettre à chanter. Il y a quelque chose de très qui calme beaucoup. Et il y a quelque chose de structurant aussi à écrire un texte chanson et à poser son souffle et à respirer et à apprendre à dire les choses autrement. Donc c'est venu... Pas parce que tout s'était fermé, mais parce qu'à un moment, ça m'a apparu comme la seule manière de le faire correctement, de m'exprimer correctement.
Puisque vous parlez de la voix et qu'on parlait depuis tout à l'heure de pluralité, de possibilité juste de dire, bah voilà, moi je suis là, je vais chanter de cette manière-là, et en fait, je ne serai pas toute seule, ou je ne serai pas unique, ou je ne serai pas tout le temps pareil à tous les moments. Dans votre voix, il y a quelque chose comme ça, probablement accentué par un travail informatique, mais il y a quelque chose de pluriel. Vous chantez et on entend comme sorte de... cœur antique derrière qui dit ouais, nous aussi on est là et on chante en même temps.
Nous sommes cinq
et on chante en même temps. Qui est-ce qui est là d'une certaine manière dans ce disque? On a parlé jusqu'à maintenant de Christophe, de Kanye West. Qui peuple cette voix-là que vous empruntez?
Il y a une figure qui peuple le disque et j'ai dédié une chanson à ce personnage-là qui s'appelle Klaus Nomi, qui pour moi est quelqu'un dont je suis un petit peu amoureuse aussi et qui est une figure très importante pour moi. Donc Klaus Nomi l'habite. Il y a Michael Nyman aussi qui habite pas mal ce disque. Il y a des parties de cordes assez lyriques qui prennent de plus en plus la place à la fin du disque. Et parce que moi, je suis une grande fan de Michael Nyman aussi. Mais je me laisse aussi traverser de gens que j'ai croisés qui m'ont paru un petit peu à la fois déplacés dans le monde dans lequel ils étaient et en même temps sublimes à leur manière. Saint-Claude, c'est une chanson pour un jeune homme qui à la fois n'était pas à sa place dans un bus parce que les gens se moquaient de lui et à la fois il l'était complètement parce qu'il était la plus belle personne de ce bus pour moi. Donc je peux me laisser inspirer de gens aussi un peu plus anonymes. Il y a une chanson qui s'appelle Half Ladies qui est dédiée à toutes les jeunes filles qui se sentent un peu maladroites ou pas à leur place. Et je pense que c'est un disque aussi qui célèbre une certaine maladresse d'exister. Que j'aime beaucoup chez Klaus Nomi, qui avait un côté très extraterrestre, qui en même temps en a fait un vrai personnage de scène, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un peu une icône underground des années 80, qui chantait de l'opéra et qui faisait une pop-opéra comme ça, très très étrange, et qui est mort tout seul. Enfin, ça m'a frappé aussi la solitude de ce personnage-là, parce qu'il a été la coqueluche d'un milieu à un moment, et il a quand même fini par mourir seul, parce qu'il était atteint du sida, c'était à l'époque une maladie un peu honteuse, et il a fini seul dans un hôpital, ce qui est un destin d'opéra, et comme il en chantait, c'était raccord. Mais voilà, ça m'intéresse aussi la solitude de ces personnages-là qui sortent un peu des normes aussi.
C'est une solitude qui est indistinguable, qui va avec leur îlot à chacun des personnages. Et j'ai l'impression aussi l'espèce d'îlot sur lequel se tient Christine and the Queen. C'est à la fois la plus belle et en même temps la plus seule. Mais il y a une sorte de célébration de cette solitude qui va de manière antagoniste ou qui va de manière couplée avec l'idée de la chaleur humaine.
Bah, je dirais qu'en fait, Christine, c'est un personnage seul. Et en même temps, c'est avec Christine aussi que j'ai réussi à retrouver... la générosité, la scène, le partage, en fait. Moi, je savais que je voulais faire de la scène depuis le début, je ne trouvais pas le moyen de le faire, donc j'étais très malheureuse aussi. Et c'est avec elle que j'ai trouvé un moyen plus spontané d'exister aussi. Donc la chaleur humaine, c'est le retour aussi à la vie, au partage, à la scène, à l'exubérance, parce qu'elle est très seule et en même temps, elle est vraiment dans un partage. Donc la chaleur humaine, c'était vraiment à prendre au premier degré. C'est-à-dire que ce projet est né d'une vraie chaleur humaine aussi, que j'ai reçue à un moment, moi, et que j'ai un peu envie de propager, et puis c'est quelque chose encore une fois d'irréductible aussi, la chaleur humaine, on ne sait pas ce que c'est trop, en même temps tout le monde peut la voir, en même temps on peut la donner, la recevoir, il y a quelque chose d'un petit peu universel, mais je pense pas que ce soit je pense que la solitude n'est pas irréductible avec la chaleur humaine, il y a juste des moments de partage et des moments ensuite de retrait.
On va vous écouter chanter quelques titres de ce disque pour l'assemblée qui est là et pour ceux qui sont derrière leur poste Christine and the Queens avec un S. Et on est toujours au Palais de Tokyo à Paris avec une assemblée tellement silencieuse.
Flowers are sure this lover is
Sur France Culture, pour pas la peine de crier, avec Ugly Pretty, un extrait de Chaleur Humaine. Chaleur Humaine, il y en a, on est au Palais de Tokyo, à Paris, et on continue.
Je suis contre les chastetés.
qui se caresse cicatrisée. Le Seigneur remerciant de saigner l'œil immense sur son silence déposé, car ce gamin-là me montre tout et pointe du doigt la non-beauté des nudités pour m'initier dans un sourire à la chaleur humaine. Ce gamin-là me montre tout et pointe du doigt la non-beauté des nudités pour m'initier dans un sourire à la chaleur humaine.
C'est encore un slow, c'est très slow aujourd'hui, c'est très tendre. Voilà, nuit 17 à 52.
Là, nuit 17 à 22, nous étions là. Toi allongé, délié d'ornements froids. Toi allongé, délié d'ornements. C'est le sang et la foi. Nuit 50, j'ai forcé le sang et la foi. Hey, hey, hey. Ooh, ooh. I want it open. So cut it open. Cut it open so you could see through it. And now I'm least alive.
Je crois.
merci, c'était un petit concert. Merci beaucoup.
Christine Anne de Queen sur France Culture en direct au Palais de Tokyo. Elle cherche à boire, il y en a là. Et elle revient à la table. Merci infiniment. Merci à vous qui avez eu une écoute. Ils ont eu une écoute remarquable. Merci à Paul Prier qui vous a accompagné sur cette dernière chanson, La nuit 17 à 52. En acoustique, ce ne sont que des extraits de ce disque Chaleur humaine dont on a parlé tout à l'heure et dont on va reparler un petit peu à l'instant. Vous avez dit que c'était un petit concert. En effet, il a duré une petite vingtaine de minutes. Vous aviez une audience absolument exceptionnelle. Ils sont tous très beaux et tous très silencieux. J'espère que...
Très joli.
Ouais, très attentif et très joli. Et vous avez fait, il y a quelques jours, il y en a deux, un concert un peu plus conséquent à Paris, à la Gaîté Lyrique, qui était une sorte de voilà, vrai premier concert en votre nom pour soutenir et célébrer la sortie de cet album. Comment est-ce que c'était ? C'était forcément un tout petit peu moins bien qu'ici, forcément, mais c'était comment ?
Franchement, c'est vrai que niveau émotion, c'était un tout petit peu moins fort. Non, mais c'était quand même assez fort en émotion, fort en chocolat aussi. Parce que c'était un concert un peu particulier qu'on a travaillé spécialement pour la Gaîté Lyrique avec un dispositif vidéo un petit peu conséquent. Il y avait des vidéos qui faisaient tout le tour de la salle, il y avait des nouvelles chorégraphies qu'on a travaillées exprès pour cette nouvelle tournée à venir. Et c'était effectivement le premier vrai concert en tête d'affiche, ce qui moi me fait toujours un peu étrange encore. C'est étrange en même temps, c'est ce que j'ai dit au concert, c'est curieux et c'est beau ce qui se passe autour de cet album pour l'instant. Et c'est, en même temps c'est très émouvant, et le public était aussi chaleureux qu'ici aujourd'hui, et très bienveillant aussi.
Qu'est-ce qui vous étonne dans le fait que cet album il rencontre, parce que voilà, on peut ne pas en faire tout un fromage, mais on peut juste observer ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il rencontre une écoute, il rencontre une émotion, il y a quelque chose qui se passe dans les humains qui sont réunis là aujourd'hui, dans ceux qui sont réunis derrière le poste et dans ceux probablement qui étaient réunis à la Gaîté Lyrique, qui est de l'ordre de cette chaleur humaine que vous évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui peut se jouer d'après vous dans cette réception ?
Bah après, je ne sais pas si moi, je suis spécialement la mieux placée pour juger de pourquoi l'album a rencontré un accueil aussi chaleureux, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à un accueil aussi bienveillant, en tout cas, parce que ma musique, elle est assez hybride et qu'elle est peut-être un petit peu indie, comme on dit, donc je ne pensais pas effectivement qu'il y aurait autant de bienveillance et un public que je ne pensais pas aussi rassembler autour de cet album, mais peut-être que... Et je pense que je ne suis pas la seule à le faire, du coup, pour le coup, mais je pense qu'en France, il y a peut-être un retour de confiance dans ce qu'on peut faire aussi en pop musique en français, et un retour de confiance en une musique plus hybride qu'on peut faire aussi en France. Parce que c'est-à-dire que moi, je n'ai pas l'impression d'inventer un genre nouveau en ne choisissant pas de genre. Je pense que la musique commerciale américaine le fait déjà pas mal, en empruntant à plein de sous-genres et en les assimilant. Et je pense qu'en France, on a peut-être été un petit peu à un moment complexé par rapport au français en pop musique ou en...
À la langue française,
oui,
vous
je
dire.
Pense que la langue française, qui n'est pas une langue très chantante pour moi, en tout cas, qui est plus bavarde ou parlée, on avait peut-être du mal à s'en emparer pour de la pop, alors que pourtant, il y a Étienne Dao et les années 80 qui sont passées par là. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un peu un souffle aussi... nouveau par rapport à la langue française. Il y a des groupes de rap qui s'en emparent à nouveau, des groupes de pop et des rappeurs solo et des chanteuses et chanteurs. Donc peut-être aussi que ça arrive un moment où on décide de ne plus choisir aussi entre commercial et indépendant, entre anglais et français, et entre R&B et musique classique. Peut-être que ça, c'est signe aussi d'une scène un peu plus vivace là-dessus.
Et qui permet peut-être aussi de dire des choses avec une précision et une possibilité d'être entendu, parce qu'on chante dans la langue du pays oui. dans lequel on vit. Mmh. Il se trouve que ce que vous dites, vous, comme vous le disiez pour la réalisation de l'album, ça n'est pas que aimable, ça n'est pas que simple, ça n'est pas que homogène et facile à recevoir, notamment tout ce qui a rapport à la sexualité, tout ce qui a rapport à la sensualité à un endroit très précis, qui demande de la complexité, qui dit... OK pour tout ça, OK pour l'amour, OK pour le sexe, OK pour la rencontre, mais ça peut se faire sur des endroits qui sont plus complexes que ceux qu'on essaye de nous vendre. Mmh. Ça n'arrive pas à n'importe quel moment non plus, quand même. Est-ce que vous êtes consciente de ce, entre guillemets, calendrier dans lequel ça arrive en France ?
Oui, bah j'ai bien eu conscience en défendant l'album aussi qu'il est arrivé à un moment où ces débats-là aussi sont assez vifs en France. Je pense à la question du genre. On m'a beaucoup parlé du genre dans la promotion que j'ai pu faire de l'album et j'étais ravie d'en parler aussi parce que c'était une manière pour moi d'aborder le sujet de manière ludique, parce qu'effectivement je fais de la musique, donc je fais du divertissement. Je pourrais être militante dans une autre vie, mais je décide aussi de défendre avec douceur des choses. Je suis pour la douceur, en fait. Je suis pour ne pas vouloir enfermer les gens ou les faire se sentir à l'étroit. Donc comme je suis du côté de la douceur, j'étais contente d'en parler avec douceur. Mais c'est vrai que l'album a rencontré ces questions-là de manière plus vivace. C'est que je pense aussi que ça contribue peut-être à la couverture médiatique de l'album. Je pense que les journalistes étaient presque autant intéressés par le personnage de Christine aussi parfois que par l'album. Alors je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose, parce que forcément j'ai envie de défendre l'album aussi plus que le personnage, mais cette approche en tout cas d'un personnage de femme libre que je ne voulais pas catégoriser, que je ne voulais pas... ce refus de se définir en fait a beaucoup plus intrigué parfois que l'album en lui-même. Le refus de la définition continue d'être un espèce de mini-attentat en fait, c'est ça qui est frappant. C'est
à qui le dites-vous?
Mais c'est en fait, et du coup, je me suis retrouvée parfois militante malgré moi aussi. J'avais l'impression d'être quelqu'un d'assez extrême, alors que je défendais juste le droit de ne pas définir ni l'album ni le personnage. Et ça, c'est vrai que ça m'a marquée dans ce que j'ai pu avoir comme échange avec les gens.
Ça vous a marqué, par exemple, on vous a demandé ce que vous faisiez? Quelle est la musique que vous faisiez? C'est une question qu'on vous a demandé.
C'est une question qui revient systématiquement, oui. Et je répondais toujours, j'ai décidé de ne pas choisir quel genre... de musique l'album aurait, et souvent la question revient à la fin de l'interview, le journaliste dit mais vous n'avez pas répondu à ma question.
Qu'est-ce que vous faites comme musique?
Ouais, c'est ça. Et je dis bah si j'ai répondu, mais ouais. J'ai répondu que je n'allais pas choisir en fait. Et bon, mais c'est pas grave, enfin le but c'est pas de taper sur les journalistes, mais c'est juste un certain rapport au monde, et encore une fois je voudrais pas taper sur le langage, mais c'est de la faute au langage tout ça, c'est la faute aux définitions. Mais je pense encore une fois que quand je dis ça je me sens pas la seule à ne pas définir ma musique en fait. Je pense que Je le mets en exergue parce que c'est quelque chose que j'ai envie de défendre. Après, je pense que quand on y réfléchit, il y a beaucoup de musiques qui ne se définissent plus. Et même le hip-hop américain n'est plus vraiment du hip-hop. C'est presque aussi important que la pop-musique. Et donc voilà, je ne suis pas la seule à avoir trouvé le concept de refus de se définir.
Vous dites qu'il y a quelque chose de l'ordre du langage que, en effet, vous chahutez ou avec lequel vous prenez totalement de la liberté. Liberté qu'on retrouve dans une phrase à laquelle je pense immédiatement. Dans l'une des chansons, vous dites que vous commencez les livres par la fin. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des lectures qui ont accompagné la réalisation, la composition, peut-être même ce moment un peu précis, si vous en avez encore le temps? Est-ce que vous pouvez lire ou avez lu des choses pendant l'écriture de cet album?
Alors, c'est bizarre parce que pendant l'écriture de l'album, j'ai pas lu du tout. J'ai beaucoup écouté de hip-hop américain, mais j'ai pas beaucoup lu. Ceci dit, il y a une lecture qui a accompagné la naissance du projet, mais bon, ça va faire sens à mon avis. C'est Jean Genet, que j'ai découvert en même temps que j'ai commencé, et notamment un très beau livre qui s'appelle Notre-Dame des Fleurs. Alors moi, en fait, je suis assez obsessionnelle, c'est-à-dire que j'ai deux, trois livres que je lis en boucle tout le temps. Et j'ai beaucoup lu avec mes études, mais là, récemment, je tourne qu'avec deux, trois livres qui s'alternent. Alors c'est Jean Genet... René Char, L'autre et Amant, voilà. Ouais. Ça va peut-être bouger. Et Kanye West, que j'écoute aussi en parallèle. Voilà.
Qu'est-ce qu'il est... Mais c'est très bien, je trouve. Je vois très bien la ligne qui les réunit tous.
L'autre et Amant, Kanye West, on n'est pas si loin, en fait. Hein. Il y a un truc un peu de rage un peu qui vient des tripes. Attends, je viens de trouver quelque chose de... Je pense que je vais essayer d'écrire un truc pour réunir L'autre et Amant et Kanye West maintenant.
Maintenant, tout de suite, à 16h57
ou pas?
On peut commencer maintenant, simplement. Qu'est-ce qui arrive après? C'est-à-dire que l'éclosion de ce disque-là, Chaleur humaine, elle est tellement chaleureuse. Qu'est-ce que vous avez le temps de réfléchir à ce qui se dessine après ça?
Oui, parce qu'en fait, je pense que... Et ça, je ne pense pas que ce soit très original non plus. Je pense que quand on termine un premier album... En plus, moi, j'ai découvert le travail en studio avec cet album qui ne m'était jamais arrivé, parce que j'ai composé beaucoup chez moi sur ordinateur. Donc, j'ai découvert des nouvelles techniques aussi pour produire du son. Et puis en défendant l'album auprès de gens, sur scène et puis en interview, le deuxième album se dessine déjà, aussi en réaction, mais pas que, par rapport à un travail qu'on a déjà pu faire. Et moi, personnellement, je pense déjà à la suite. J'ai commencé déjà à écrire des nouvelles chansons. Je pense aussi à comment faire évoluer Christine comme personnage. J'aimerais bien que ce soit un personnage qui puisse tenir sur la longueur aussi. C'est pour ça que j'ai toujours peur des articles, tu sais, qui disent sensation du moment, buzz du moment. Parce que le buzz n'est pas éternel, voilà. Mais moi, j'aimerais bien que Christine, elle puisse évoluer, et j'y pense déjà beaucoup. Et puis, il y aura des concerts aussi à la rentrée prochaine.
Je vais tout de suite les annoncer.
Ah bon, ok.
Christine and the Queen, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez rejoints, nous avez écoutés au Palais de Tokyo. Je cite que vous serez en concert demain à l'Olympia pour le festival Fête de la Musique 2014, le vendredi 11 juillet à Montmartin-sur-Mer, le 14 juillet à La Rochelle, le 17 juillet au Vieille Charles, le 1er août à Aulnoy-Aymeries. On mettra le reste sur le site internet de l'émission. On peut dire le 22 octobre à Bordeaux, 23 octobre à Toulouse
Et j'en place un dernier, 30 septembre et 1er octobre à la Cigale à Paris. Pour écouter cette émission et celles qui les précèdent, qui ont composé cette semaine musicale, franceculture.fr, ça fonctionne parfaitement. Pour nous écrire, un formulaire sur le même site fonctionne lui aussi. Merci beaucoup pour tous vos mots. À la technique aujourd'hui, Bernard Legac, Jean-Marie Porcher, Benjamin Thuot. Merci à Guillaume Rialan et Jean-Marc Clos, à Cyril Baer, Inès Duperron, Romain Debecq-Delev qui pensent et préparent cette émission avec moi, à Bastien Dorémus, Paul Prier et Laurent Lévy. Une émission réalisée par Michel Lèche, déjà dit. Merci au Palais de Tokyo pour son accueil. Encore merci à vous. On sera là lundi à la même heure, même radio, dans un instant, le 5 à 7.